C'est agréable d'attendre une fête, d'attendre un jour heureux. Il y a des périodes de notre vie que nous redoutons. Il y a des périodes de notre parcours que nous avons hâte de vivre. Récemment, un ami me disait sa crainte devant une hospitalisation qui approche. Mais c'est tellement bon de voir une fête approcher. Et en ce temps de l'Avent, deuxième dimanche de l'Avent, j'ai pensé relire avec vous un texte, non pas de Noël, mais de la période qui précède Noël, pour que nous réentendions l'annonce de Noël et ce que Dieu a voulu que nous puissions méditer génération après génération. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. » Incroyable annonce. Et je vous invite à relire tout le paragraphe dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille, promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière, il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible à Dieu. » Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors, l'ange la quitte. Que Dieu bénisse sa parole, nous aide à l'entendre et que par son esprit, il nous permette de progresser dans la connaissance et dans la marche. Deux naissances miraculeuses, beaucoup de prophéties accomplies, quelque chose d'incroyable. Mais Marie a décidé, j'y crois. Parce qu'elle a entendu l'ange lui affirmer que rien n'est impossible à Dieu. Tout d'abord, deux naissances miraculeuses. Nous venons de lire l'annonce de la deuxième, mais qui rappelle la première. C'est le 6e mois pour Élisabeth, la parente de Marie. Jean-Baptiste, petit cousin au sens de cousin pas direct de Jésus, est en fait son aîné de 6 mois. Dans les deux cas, nous sommes devant une naissance miraculeuse. Pour les parents de Jean-Baptiste, il est dit un peu plus haut verset 7 que je n'ai pas lu, ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux. Luc 1, verset 7. On apprend donc qu'Élisabeth n'avait pas pu avoir d'enfants jusqu'à ce jour et en plus que maintenant elle et son mari sont d'un âge qui fait qu'ils ne peuvent encore moins imaginer attendre un enfant. C'était peu probable pour ce couple, c'est devenu tout à fait impensable à l'âge qu'ils ont atteint quand l'annonce est faite de la naissance de Jean-Baptiste. Pour Jésus-Christ, Marie est fiancée, promise à Joseph. Mais ils ne vivent pas ensemble. Et ce qui ferait penser qu'ils n'ont pas été fidèles en s'attendant mettrait très mal à l'aise Joseph, comme le dit clairement un autre évangile, l'évangile de Matthieu. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. C'était impensable que Marie, cette jeune fille promise à Joseph, dans une situation où ce couple respectait parfaitement ce qui était bon, ce qui était bien, et ils ne vivaient pas ensemble. Deux naissances miraculeuses. Mais beaucoup de prophéties vont s'accomplir, comme annoncé par les prophètes. Marie est à Nazareth, une ville pas très bien cotée, et pauvre. Jésus n'est pas né là, nous le savons, mais il va habiter là où Joseph et Marie vont revenir dans quelques années. Et Jésus va être appelé, avec mépris souvent, Nazaréen. Il n'y a pas de prophétie claire qui cite Nazareth, et pourtant, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons « Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Pas très honorant de venir de Nazareth. Cette ville a un nom de la même racine que rejeton, rejeté, petit, faible. Et ça correspond du coup à certaines prophéties, pas très nettes. La ville n'est pas citée comme étant la ville dans laquelle Jésus va grandir. Mais il y a plusieurs prophéties qui disent que Jésus va être parmi les faibles, parmi les petits, comme un rejeton d'une terre assoiffée. Vous connaissez ce texte d'Ésaïe. Et cette mention de Nazareth nous rappelle que Dieu travaille avec les petits, avec les rejetés, avec ceux qui ne sont pas considérés. Et nous aurons la même chose dans deux semaines avec Bethléem. Bethléem, toute petite ville. Michée 5, et toi Bethléem, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Nazareth, une ville pas très bien cotée. Bethléem, petit village. La crèche, n'en parlons pas. Tout ceci nous rappelle que Dieu s'est approché des petits, que Dieu s'est fait petit, et que celui qui sera déclaré, quelques lignes plus loin, grand, fils du Très-Haut, est en fait venu sous forme extrêmement humble, avec les petits, chez les petits. Ensuite, il est question d'une jeune fille, traduit quelquefois une vierge. Le dictionnaire nous dit une femme n'ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme, une fille non encore mariée. Ça, c'est pour le mot dans Luc 1. Le mot dans Ésaïe 7, la prophétie bien connue, nous parle de la jeune fille qui sera enceinte, veut dire la même chose. Jeune fille, jeune femme, encore vierge, en âge de se marier. Pas encore mariée. Une jeune fille, quelqu'un de petit, quelqu'un, là encore, qui nous rappelle très fortement le miraculeux que l'ange annonce. Et tu l'appelleras Jésus. Ah, pourquoi ? Là encore, on peut être un peu surpris par rapport à toutes les prophéties que l'on connaît assez bien. Ésaïe 7 nous dit, tu l'appelleras Emmanuel. Il sera appelé Emmanuel. Et là encore, on n'a pas de texte qui nous dise qu'il allait être appelé Jésus. Matthieu nous aide à comprendre. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc tout devient clair, pourvu qu'on parle hébreu, ce qui n'est pas notre cas. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Et Jésus, comme Josué, veut dire Dieu, Yahweh, sauve. Osée veut dire il sauve. Josué, Jésus veut dire Dieu, le Dieu de Moïse, sauve. Et alors là, du coup, on n'a pas une prophétie, mais on en a des dizaines qui nous disent que celui qui va être envoyé est envoyé pour délivrer. Le Messie est celui qui vient pour sauver le peuple. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, fils du Très-Haut. C'était déjà dit il y a 6 mois pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est annoncé grand. Il sera grand, mais pas fils du Très-Haut. Pour Jésus, il y a cet ajout qui nous dit que même s'il va être issu de Nazareth, né à Bethléem, d'une jeune fille tout à fait peu connue, il n'en est pas moins le fils du Très-Haut. D'ailleurs, il va être roi, fils de David et roi pour toujours. Et là, les prophéties sont plus claires et plus faciles pour nous. Ésaïe 9, un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et il dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Mais comment cela est-il possible ? Je ne vis pas avec un homme. Autre traduction plus ancienne, je ne connais pas d'homme. Au sens hébraïque évident, je n'ai pas de relation intime dans le cadre d'un couple et de relations sexuelles. Comment cela sera-t-il possible ? Donc j'ai égrené quelques événements, quelques éléments de l'annonce qui nous disent que cela correspond aux prophéties. Mais nous comprenons très bien que Marie n'est pas, avec son petit calepin, en train de dire 1, 2, 3, moi je suis arrivé à 6. Ah oui, c'est lui, ça correspond à toutes les prophéties annoncées. Marie n'est pas en train de compter les prophéties que l'on peut discerner dans l'annonce que l'ange lui fait. Elle est sous le choc d'être celle à qui l'ange s'adresse, et sous le choc de quelque chose qui paraît tellement impossible. Mais comment cela va-t-il pouvoir se faire ? Et c'est extraordinaire que quelques instants après, en entendant l'ange lui donner la réponse, Marie peut conclure « Je suis la servante du Seigneur. » Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors l'ange la quitta. Incroyable, mais je crois. Voilà l'attitude exemplaire de Marie. Au bénéfice de l'œuvre de Dieu en elle, elle vient d'écouter avec tout son cœur et en le recevant, l'acceptant, ce que l'ange lui répond. Qu'est-ce que l'ange répond ? Il répond, mais il y en a déjà eu d'autres, des miracles. Et il y en a un tout près de toi. Élisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. Et Dieu veut que nous ouvrions les yeux devant ce qui nous rappelle qu'il est vraiment celui qu'il dit être. C'est une de mes prières assez régulières. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je vois qui tu es, que je vois ce que tu fais, et que ma foi soit soutenue par tout ce que tu m'accordes, par tous les signes que tu me donnes. Les miracles peuvent parler, les signes peuvent être éclatants, mais l'important, c'est leur message. Il ne faut pas en rester aux signes, il ne faut pas être des gourmands de signes et de miracles. Il nous faut passer à ce qu'ils nous disent, ces signes et ces miracles. Et c'est ce que l'ange dit à Marie de façon très déterminante à la fin de son message. Car rien n'est impossible à Dieu. Et voilà, je crois, une des pensées qu'il nous faut garder dans notre cœur pendant tout ce temps de l'Avent. L'annonce de la venue de Jésus-Christ, entre autres l'annonce de l'ange à Marie que nous relisons ce matin, nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Il nous faut continuer à entendre, à lire tous ces textes qui nous disent tout ce qui s'est passé avant la fête, avant la réponse de Dieu au plus grand besoin de l'humanité, avant l'application de tout ce qu'il avait promis. Il nous faut mieux connaître Noël dans son contexte. Mais je nous invite, après avoir relu ce texte, à retenir 2-3 applications très concrètes pour nous. Premièrement, Dieu est fidèle. Il n'oublie aucune de ses promesses. Alors, je vais contredire mes prédécesseurs. Dans cette belle salle bien confortable, ce n'est pas trop compliqué d'être paisible pendant quelques instants. Mais il y a des moments, dans les semaines écoulées, peut-être dans la semaine qui commence, qui ont été beaucoup plus difficiles. Et je nous invite, je nous souhaite, je me souhaite, je demande à Dieu de nous aider à avoir vraiment en tête que celui que nous prions, celui que nous chantons ce matin, celui vers qui nous voulons apprendre à nous tourner tous les jours, est fidèle au point que rien de ce qu'il a dit ne passe aux oubliettes. Dieu est fidèle, il n'oublie aucune de ses promesses. Marie connaissait certains textes probablement beaucoup mieux que nous-mêmes. Mais tellement de siècles avaient passé. Siméon les connaissait et beaucoup d'autres. Mais tellement de siècles avaient passé que c'était extraordinaire de tout à coup entendre que la promesse allait se réaliser. Dieu est fidèle et n'oublie aucune de ses promesses. Deuxièmement, ce que l'ange a dit en conclusion synthétique. Rien n'est impossible à Dieu. Le grand Dieu, qui se présente souvent de façon discrète, qui est venu avec les petits parmi les petits, qui est né dans une étable, le grand Dieu dont certains se sont beaucoup moqués au fil des siècles. Même devant Jésus-Christ sur la croix, certains se moquaient. Qu'est-ce que tu fais là, toi qui prétends être tout-puissant ? Mais nous voulons nous souvenir que ce Dieu qui a été mal jugé, ce Dieu qui n'a pas été reconnu souvent, est en fait le grand Dieu à qui rien n'est impossible. Troisièmement, et nous sommes tout particulièrement au cœur de l'annonce de Noël, tu l'appelleras Jésus. Merci Seigneur, j'ai un sauveur. C'est le nom choisi par Dieu pour le Messie tant annoncé. Le Messie était celui qui était choisi, celui qui allait accomplir une mission particulière, et c'est le mot qui est le plus souvent utilisé pour annoncer le libérateur qui allait venir. Mais Jésus, ça nous dit ce qu'il va faire, ça nous dit qui il va l'être, ça nous dit la bonne nouvelle de Noël en un seul nom. Jésus, nous en reparlerons dans 2 semaines. Noël, c'est la bonne nouvelle de celui qui veut vraiment nous délivrer, de celui qui a tout accompli pour nous sauver. Quelle annonce merveilleuse! Je nous souhaite une merveilleuse avant-fête, parce que la fête est vraiment extraordinaire. Amen.